Hello à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui la bosse, le podcast qui met en lumière les femmes inspirantes. Aujourd'hui, je reçois Narjes Bahar, responsable éditoriale rap chez Deezer. Journaliste de formation, elle a fait de sa passion sa spécialité et est aujourd'hui une référence en la matière. Mais Narjes, c'est aussi une maman qui a dû jouer des coudes pour se faire une place dans un milieu évidemment masculin. Rencontre avec une femme inspirante, donc qui semble bien décidée à bousculer les connes. Bonjour Narjes.
Bonjour.
Je suis ravie de t'avoir sur le podcast C'est qui la bosse aujourd'hui.
Pareillement, très contente, merci à vous.
C'est, je crois que c'est une grande première d'avoir quelqu'un qui bosse dans la musique comme ça directement. Donc je suis ravie de t'avoir aujourd'hui et j'ai hâte de découvrir de tout ce qu'on va parler. Parce qu'on s'est vu il y a quelques jours et déjà ça a été compliqué de nous stopper. Et je pense que du coup il va y avoir des choses très sympas dans ce podcast. Ouais. On va commencer très simplement. Tu rêvais de quoi quand t'étais enfant ?
Ah, de quoi je rêvais quand j'étais enfant ? C'est une belle question.
Ouais.
Je pense que je rêvais de marquer mon époque, je pense.
Waouh !
Ouais, c'est gros, hein ?
C'est huge. Et t'avais un métier en tête pour ça ou juste tu voulais laisser une trace dans l'histoire ?
Ouais, non, pas de métier, mais je me disais que je voulais servir à quelque chose.
Ok, être un personnage principal, quoi.
Ouais, être utile.
Ouais.
Après, très vite, j'ai laissé ça de côté parce que j'ai découvert que la vie n'était pas si simple que ça. Mais ouais, je pense que j'avais vraiment cette envie de postérité. Après, en toute humilité, hein, pas nécessairement à l'image tu vois, d'une personnalité qui invente un virus ou qui sauve la planète. Mais en tout cas, de me dire que dans ce que je ferais, il y aurait une utilité.
Oui, d'avoir une reconnaissance dans le milieu dans lequel tu évolues. Quoi.
Reconnaissance et puis surtout de me dire que ce que je fais, ça va servir aux autres.
Ok, ouais. Donc déjà très... C'est pas une réponse que j'ai tout le temps. Souvent on me dit, bon, je rêvais d'être princesse ou je rêvais d'être présidente de la République, mais c'est vrai, juste marquer mon époque, c'est... C'est deep.
Écoute, je devais être deep dès toute petite.
C'est trop bien. Et bon, alors forcément, je suis obligée de te demander ça. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as entendu du rap ?
Ouais, c'est très très jeune parce qu'en fait j'ai un grand frère et une grande sœur qui écoutaient déjà beaucoup de musique et donc les premiers morceaux de rap que j'ai écoutés c'était à leur côté. Je comprenais rien du tout parce que c'était beaucoup de rap américain et voilà, mais en tout cas il y avait toujours beaucoup de musique à la maison. Puis après il y a eu le rap français, là j'ai commencé un petit peu à comprendre, j'étais un petit peu plus âgée, mais on va dire que ça faisait pas l'unanimité à la maison parce qu'on avait des paroles type c'est clair, t'as le toucher, nique ta mère. Parce que
forcément.
C'était voilà, un peu l'époque de NTM et puis aussi l'époque de on ne comprenait pas cette musique assez, on va dire, chargée en termes d'énergie et de message.
Et toi, pour toi, ça a été un coup de foudre immédiat avec le rap ?
Oui, je pense que très vite, j'ai vraiment beaucoup aimé la musique d'une façon générale. J'ai grandi dans une famille où il y avait beaucoup de musique, que ce soit de la musique, tu vois, type Charles Aznavour. J'écoutais aussi les grandes chanteuses arabes avec mes parents parce que je suis d'origine marocaine. Et puis, il y avait aussi, tu vois, des trucs comme du disco, de la funk. Et par la suite, le rap, moi, je viens d'une époque où le rap est arrivé. En France, donc du coup, j'ai pas grandi avec ça toute ma vie.
Ouais,
j'ai
découvert ça plus tard. Le début, quoi.
Exactement, j'ai connu l'arrivée, on va dire, du rap en France, et donc ça a été un apprentissage.
Okay.
Tu vois, j'ai pas baigné là-dedans comme ça peut être le cas des jeunes générations aujourd'hui qui ont connu le rap, tu vois, depuis qu'ils sont nés. Nous, c'était vraiment quelque chose qui arrivait, qui était nouveau, et donc ça n'avait pas nécessairement le même comment dirais-je, le même écho, et puis ça avait pas les gens n'avaient pas cette perception de ce que ça allait devenir à l'époque.
En fait, c'était tu as connu les prémices de quelque chose qui est aujourd'hui beaucoup plus installé et a pris une place énorme en fait dans l'industrie musicale. C'est une époque charnière, quoi. Et quand la première fois que tu entends du rap, tu te dis oh, c'est ça que je veux faire, genre je veux bosser dans ce milieu, ou c'est quelque chose qui est arrivé par hasard?
Oui, alors en plus, moi j'ai toujours eu un côté très geek depuis petite, donc j'ai commencé à faire des cassettes. En gros, j'étais déjà en train de devenir responsable éditoriale petite, quoi.
Parce
que j'étais... Ouais, voilà, je faisais des playlists sur des cassettes audio, sur des cassettes vidéo. Tu sais, j'écoutais la radio, j'enregistrais les morceaux, puis après, je mettais un autre morceau après. Je faisais ça avec des cassettes parce que j'avais le câble, donc je pouvais regarder MTV, etc. Donc moi, j'étais un peu la référente pour les copains et les copines, déjà. Donc je leur faisais des cassettes et puis je les donnais à tout le monde. Et j'ai commencé très tôt, finalement, à me dire que il y avait des choses, en tout cas, à apprendre de cette musique-là. Et que pour les apprendre, il allait falloir que je collectionne. Voilà. Il y avait vraiment cette idée de collectionner. Et ensuite, une fois que j'ai commencé un peu à asseoir cette collection, j'ai très vite nourri le rêve de devenir ingénieur du son.
Ok, ouais, donc vraiment très musique-musique, quoi.
Voilà, j'étais très technique en plus. J'ai toujours été attirée par la technique. C'est ce qui fait que par ailleurs, par la suite, quand je suis devenue journaliste, j'ai d'abord commencé comme journaliste reporter d'images. Donc j'avais une caméra dans les mains.
Ok.
Et je faisais du montage vidéo. Et c'était ma grande passion, quoi.
Et du coup, quand tu deviens journaliste, il y avait aussi un lien avec la musique.
Oui, alors le lien s'est fait, on va dire, c'est le fruit du destin. Mais c'est clair que je me suis retrouvée finalement au bon endroit. Parce que ça m'a permis de concilier ma passion pour la musique et mon envie, encore une fois, de raconter des histoires et d'être utile aux autres.
Ok. Et une chose en entraînant une autre, tu as fini chez Deezer.
Exactement, chez Deezer, où là, en fait, je me suis rendu compte vraiment en arrivant chez Deezer que ce métier, je l'avais fait toute ma vie. Dans le sens où, depuis toute petite, je collectionnais les morceaux. Je me rappelle en plus, tu vois, de ces conversations avec des copines quand on a 20, 24 ans et que c'est la période où tu sors pas mal sur Paris parce que je vivais sur Paris. Et donc, du coup, c'est le moment où, tu vois, j'entends beaucoup « Ah, Nargès, tu devrais essayer de trouver un métier où tu fais de la curation musicale pour les gens ». Pour des restaurants, pour des bars, etc. Enfin, et donc, à cette époque-là, il y avait une façon de faire de la curation, c'était d'être DJ finalement, parce que c'était voilà, une façon de d'être utile et de servir de la musique aux autres. J'ai par ailleurs un moment nourri le rêve aussi de faire ça, je me disais je vais passer des disques, mais j'avais une timidité qui faisait que je ne suis pas allée au bout du truc. En revanche, après, quelques années plus tard, tout cet apprentissage m'a permis de... devenir, je dirais, un bon édito chez Deezer, dans le sens où il y a à la fois tout ce parcours de passionnée, de collectionneuse, qui fait que j'ai beaucoup appris sur le rap et sur les autres musiques. Et puis, j'avais aussi cette casquette de journaliste en arrivant chez Deezer, qui faisait que j'avais pris l'habitude de recouper mes sources, de passer énormément de temps à faire de la veille sur Internet. Et donc, finalement, j'ai compris que tout ce que j'avais fait jusqu'ici me servait aujourd'hui.
Ok, donc, c'est tout plein de petites expériences qui font qu'aujourd'hui, tu es une bible en ce qui concerne le rap, quoi.
J'essaye. Ouais. Après, il y a toujours encore beaucoup à apprendre parce que le rap est une musique, même si aujourd'hui le hip-hop a 50 ans, c'est encore une musique qui est très dans le mouvement parce que l'essence même du rap au départ, c'est d'aller chercher des inspirations dans toutes les musiques qui l'entourent. Et donc, aujourd'hui, on est dans une époque où il y a de plus en plus de rap hybride, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur les nouvelles esthétiques, sur comment aussi, tu vois, les jeunes générations peuvent parler de cette musique-là. Leur vocabulaire a beaucoup évolué. Il y a un truc assez fantastique de l'ordre de la réflexion qu'on peut avoir autour du mouvement des mots. Un mot qui pouvait être utilisé à l'époque pour une signification particulière, il va évoluer et vouloir dire parfois tout autre chose.
Tu as un exemple en tête
Par exemple, on va parler par exemple de New Jazz. Le New Jazz, c'est plutôt un courant musical qui, à la base, vraiment tient du jazz. Donc c'est le nouveau jazz, un renouveau du jazz. C'est un mot qui a été notamment utilisé beaucoup au Japon pour parler d'une certaine scène jazz avec des artistes comme Sleepwalker, Quasimodo, etc. Et donc on retrouve ça bien des années plus tard dans le rap américain chez des artistes qui font un rap assez, on va dire, dans l'air du temps, les années 2020, et qui utilisent ce mot-là pour essayer d'expliquer le côté probablement libre de ce qu'ils font, tu vois, le côté un peu
déconstruit
en effet. Et donc c'est assez intéressant de voir comment les mots évoluent, comment aussi tu vois des courants musicaux donnent naissance à des sous-genres tout à fait inattendus, si je peux dire ça comme ça.
Et du coup, aujourd'hui, tu serais capable de me donner une définition du rap en quelques mots ou c'est impossible pour toi ?
Ah, c'est vraiment impossible. Je dirais qu'il n'y a pas un rap, mais des raps.
Ok, ouais. Donc, hyper intéressant. Et tu penses que c'est ça, justement, qui fait que ce style musical est si populaire ? C'est parce qu'il est, il est polymorphe ?
Totalement. Je pense que c'est à l'image de tous les courants musicaux qui commencent en tant que subculture et qui deviennent par la suite mainstream. On voit très vite qu'il va y avoir des fusions, courants nouveaux qui vont naître, qui vont ensuite donner naissance à d'autres courants. Mmh. Et finalement, si on regarde le rock'n'roll ou même la chanson ou la musique électronique, il y a toujours eu ce phénomène-là, c'est-à-dire qu'au départ, il peut y avoir l'essence de quelque chose qui va ensuite grandir, évoluer et donner naissance à plein de nouveautés qui vont aller séduire des audiences qui vont être très différentes. Donc, le rap a le même fonctionnement aujourd'hui, ouais.
Donc, en fait, et puis, comme il y a plusieurs raps, il y a aussi plusieurs auditeurs.
Exactement.
Oui, on dit auditeurs, ouais.
Alors nous, on dit plutôt des audiences.
Des audiences,
là, c'est
ouais.
le terme plus responsable éditorial chez Deezer, parce que notre mission, c'est de répondre à ces audiences. Mais en effet, en radio, on dit plutôt auditeurs.
Donc, t'as pas un profil type on pouvait, parce qu'il y a encore quand même énormément de clichés autour du rap, mais t'as pas de profil type du mec ou de la nana qui écoute du... D'ailleurs, on pense souvent plus à un mec qu'à une
c'est
nana.
C'est ça. Il y a beaucoup de femmes qui écoutent du rap. J'en suis la preuve.
Oui, forcément. C'est comme il y a plein de nanas qui jouent aux jeux vidéo et
tout
on oublie
fait.
Souvent.
Oui.
Mais du coup, aujourd'hui, comme on ne peut pas donner une seule définition du rap, il n'y a pas un seul profil type. Ce n'est pas un gamin de 15 ans, seul dans sa chambre, qui écoute du rap. Quoi.
Non, ce serait trop difficile de réduire le rap à cela, je dirais, dans un premier temps. Et puis surtout, en fait, c'est une musique qui vieillit. Donc, on a aujourd'hui des quarantenaires qui écoutent du rap.
Bah parce que NTM, ils ont quoi ? Ils ont 40, 50 ans, les... ou même IM, pareil.
Proche de 50 plus,
ouais.
je dirais.
Donc forcément, ils ont une audience qui a vieilli avec eux.
Il y a l'audience qui les a suivis et qui a vieilli avec eux. Et puis, il y a aussi une nouvelle audience qui sont allées séduire en chemin, tu vois.
Ouais.
C'est dans le sens où c'est la vie, le cycle d'un artiste fait qu'à des endroits, il commence peut-être avec une audience qui va avoir entre 15 et 20, 25 ans.
Ouais.
Et probablement, cette audience-là, si elle est en affinité avec l'artiste et qu'on a dans cette audience des super fans, les super fans, c'est vraiment les gens qui sont vraiment hyper à fond et qui tombent profondément amoureux d'un artiste. Et généralement, quand on est super fan, on a tendance à suivre un artiste très très longtemps. Après, tu peux aussi avoir un désamour pour l'artiste que tu suis. Mais globalement, on a quand même ce phénomène-là qui existe. Et donc, de fait, on a des audiences qui vieillissent avec leurs artistes. Et puis surtout, comme je le disais tout à l'heure, le rap s'est nourri de plein de musiques différentes. Donc aujourd'hui, tu vas avoir des... Voilà, tu vas avoir des artistes qui vont être plus alternatifs dans le rap. Tu vas avoir des artistes qui vont être plus peut-être proches de ce qu'on va retrouver dans la chanson française. Des artistes qui vont être plus proches de ce qu'on peut retrouver dans l'afropop. Donc finalement, ces artistes nourrissent des audiences, une fois encore, qui sont différentes.
Ouais, finalement, le spectre, ça va de Orelsan d'un côté à Jul de l'autre, presque.
Voilà, donc, tout à fait. Et tu peux avoir des gens qui écoutent les deux, mais tu peux aussi avoir des gens qui sont uniquement sur Jul et le rap Marseille, comme on dit. Et,
rap Marseille, c'est un style particulier.
Oui, alors c'est ça qui est assez fabuleux, c'est que Jul, c'est peut-être pas assez entendu et connu, mais c'est l'un des rares artistes de ces dernières années qui a réussi à créer une spécificité française dans le rap.
Okay.
Et on parle même de rap à la Jul ou de type beat à la Jul. Type beat, en fait, ça correspond à une production musicale. Et en gros, sa façon de produire les sons qu'il fait sur lesquels il va rapper, c'est une spécificité toute particulière à Jul qui a été reprise par énormément d'artistes dans le monde. C'est-à-dire qu'en Europe, tu as des artistes aujourd'hui qui font des titres à la Jul, en Afrique également, dans de nombreux pays. Et c'est l'un des rares vraiment qui a réussi à créer quelque chose qui fédère et au-delà de ça, qui a été repris énormément.
Et c'est dingue parce qu'en fait, quand on voit dans les médias, il est quand même vachement pointé du doigt et il dérange. Enfin, comme le rap en général, mais j'ai l'impression que Jul particulièrement dérange. Quoi.
Alors, je dirais qu'il dérange moins. Parce qu'il est devenu assez mainstream et populaire
pour
faire...
Ça dépend qui.
Voilà, c'est ça. Mais il y a toujours, en effet, des gens qui sont probablement dérangée par Jules. Et je dirais que là, c'est à cet endroit qu'on peut parler de mépris de classe.
Ouais.
Parce
ouais.
que Jules, c'est la France populaire, qu'il est assez simple dans son discours, dans sa façon de se présenter. Mmh. Mais c'est finalement ce qui fait qu'il fédère. Parce que les gens ont beaucoup plus de possibilité de s'identifier à quelqu'un qui leur ressemble, qui s'habille comme eux, qui parle comme eux. Et là où c'est assez fabuleux, c'est que Jules a réellement réussi à mettre Marseille sur le devant de la scène internationale. Mmh. Et au-delà de ça, quand on pense à Marseille aujourd'hui, c'est très difficile de ne pas penser à Jules assez rapidement.
Ouais, et puis même ne serait-ce que bande organisée, voilà. Il suffit de voyager un peu, on se rend compte que partout... Dans les clubs partout dans le monde, il y a toujours cette chanson qui passe à un moment donné.
C'est ça.
C'est assez dingue, quoi.
Ouais, c'est fabuleux. Et puis, Jules, il y a ce truc aussi où il a un de ses albums qui s'appelle La Machine. Et c'est réellement une machine. Alors, certains pourront décrier le fait qu'il produise de façon assez intensive. Mais Jules, c'est un artiste qui a même installé une façon de sortir de la musique. Jules a des albums d'hiver, il a des albums d'été, comme des collections.
OK.
Ouais, ouais. Et puis, après, il a toujours des projets qui permettent... De passer des caps, dont le projet Bande Organisée. Ouais. Bande Organisée, ça a été vraiment la première fois où on a eu autant d'artistes issus d'une même scène et d'une même ville que l'on retrouve sur un album. Alors, il y avait déjà eu, bien entendu, des précédents avec des artistes qui se retrouvent sur des albums collaboratifs, mais à ce niveau-là, avec ce succès, c'est assez inédit.
Oui, donc, exemple... exemple de réussite presque.
Oui.
Parce qu'en plus, il est. Enfin, je me suis un peu renseignée quand même parce que j'étais. Je pense qu'avant de faire ce podcast, j'étais Big Flo. Je connaissais Big Flo et Oli, Orelsan, mais c'est à peu près tout. Donc j'ai quand même fait quelques recherches. Jules, c'est quand même l'artiste masculin qui est le plus écouté en France depuis au moins 5 ans. Et quelqu'un de très prolifique. Donc c'est vrai que. En fait, quand on met pas le nez dedans, on se doute pas de l'impact que peut avoir cet homme sur l'industrie musicale et sur le marché de la musique en France.
C'est ça. Et puis il a vraiment cette bonhomie, cette simplicité.
Il a l'air sympathique, c'est vrai.
Oui,
que...
oui, oui. Et moi, par exemple, c'était l'un des artistes que je rêvais de rencontrer.
Et alors ?
Assez extraordinaire, hein, vraiment quelqu'un d'extrêmement généreux, qui pense beaucoup aux autres. On avait eu à l'époque de justement Bande Organisée, on a eu à l'époque la chance de faire une opération avec Deezer assez fabuleuse où on est parti dans le sud, on était à Marseille et on a créé un plateau et pendant 3 jours on a fait une émission avec tous les artistes de Bande Organisée. Et c'était super parce que c'était une période Covid où Jules avait envie d'apporter du divertissement à sa team, comme il le dit. Et puis de notre côté à nous, on avait envie d'accompagner cette idée voilà, qui était assez fabuleuse parce qu'on a passé 3 jours de communion avec tous les artistes du projet. Et c'est là que j'ai vraiment senti que Jules, ce qui le préoccupait, c'était vraiment que chaque artiste qu'il avait pu inviter sur ce projet-là soit vraiment considéré comme lui avait envie de les considérer. Donc, il ne voulait pas du tout être au centre de la conversation. Il voulait vraiment qu'on entende tout le monde.
Okay.
Et c'était hyper important pour lui.
Oui, donc en fait, il est là un petit peu pour réunir, pour réunir des talents ensemble, mais ce n'est pas... Il est à la tête du projet, mais c'est pas lui le sujet central, quoi.
En tout cas, ouais, c'est comme ça que lui voulait que ce soit entendu. Et je pense que ça l'a été finalement parce que ça a permis aussi à des artistes de s'illustrer, de se faire remarquer. Je pense notamment à SCH, grand monsieur du rap français, bien entendu, qui est quelqu'un d'extrêmement brillant, qui nous a sorti des classiques du rap français. Mais je pense que ces classiques, ils étaient plutôt de l'ordre, tu vois, de ceux qui écoutent vraiment du rap. Et connu des aficionados.
Ouais.
Là, c'est un projet qui a quand même révélé SCH comme un artiste qui peut faire des titres qui sont des tubes pour faire danser. Jusque-là, SCH était plutôt sur des choses assez sérieuses. C'est un projet, je pense, qui a été extrêmement bénéfique pour le rap français d'une façon générale.
Et globalement, je sais que c'est peut-être la question un peu deep, mais est-ce que tu penses que les rappeurs aujourd'hui sont l'équivalent de ce qu'étaient les poètes il y a 200 ou 300 ans ?
Moi, je dirais qu'à des niveaux, oui, même si tous n'ont pas vocation à être, tu vois...
Je pense que oui, pareil, vu qu'il y a de tout, il doit y avoir des textes qui sont plus ou moins fouillés, voilà. des textes plus ou moins travaillés. Donc, mais aujourd'hui, on peut retrouver de la qualité textuelle dans le rap. Quoi.
Bah, ça fait partie de l'essence même de ce que c'est que le rap. Après, ce qui est assez fabuleux, c'est que si on s'intéresse vraiment à la technique du rap... Il va y avoir des artistes qui vont être extrêmement techniques d'un point de vue vraiment, tu vois, j'ai envie de dire dissonance, tout ce qui va être figure de style, tu vas avoir des allitérations. Enfin, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer, qui vont être de l'ordre vraiment de la formule textuelle. Mmh. Et puis, il va y avoir aussi des choses assez extraordinaires, type des néologismes, des façons de raconter des histoires avec parfois peut-être peu de mots, mais de façon assez percutante. Mmh. Donc finalement, c'est vrai que c'est un peu comme quand tu regardes la littérature aujourd'hui, c'est-à-dire que tu vas avoir des super romans qui vont vraiment être des œuvres centrales et marquer le temps sur des années et des années. Mmh. Puis tu vas avoir des succès qui vont être plus de l'ordre de l'époque, donc très mainstream dans un moment donné, type les années 2020 par exemple.
Ok.
Et le rap, c'est ça, ça a cette fonction-là. Donc après, on a vraiment des textes qui ont marqué leur époque et au-delà de ça, qui restent aujourd'hui des œuvres centrales dans le rap français. Je pense notamment à certains morceaux de IAM, de NTM. Mm-hmm. Je pense à Booba avec des titres type Pitbull, qui est un morceau assez fabuleux, avec une écriture très sincère et avec une densité assez extraordinaire.
Mais dans le genre Diams aussi, qui a quand même marqué une époque. Quoi.
Tout à fait. Diams qui a marqué une époque pour plein de raisons, parce qu'on manque cruellement aussi de représentation féminine dans le rap français. Et qu'au-delà de ça, en fait, c'est que Diams, elle était tellement forte qu'on a arrêté de regarder Diams comme une personne genrée, si je peux dire ça comme ça.
C'est Diams.
C'était Diams. Elle a produit des œuvres assez extraordinaires dans le rap underground, si on peut dire ça comme ça. Mm-hmm. Donc vraiment à une échelle plus publique d'aficionados. Et par la suite, en fait, elle a vraiment conquis une audience plus large parce qu'elle avait des textes fédérateurs et aussi une sincérité et une authenticité qui a fait que les gens se sont retrouvés dans ce que Diams racontait. Et c'est vrai que Diams a été aussi assez engagé dans les morceaux.
Oui, mais il y a une portée politique quand même dans beaucoup de textes de Diams.
Exactement.
Donc ouais, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a bien une artiste qui fait l'unanimité, c'est Diams. On en parlait l'autre jour avec des copines, on disait qu'elle ferait n'importe quel Bercy, elle le remplirait en un claquement de doigts, parce que je pense que tout le monde chérit cette période... où Diams produisait encore des morceaux.
Oui, c'était une très, très belle période. Mm-hmm. Après, quand on travaille dans le rap, on est moins dans la nostalgie parce qu'on voit les nouveautés arriver.
Et justement, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Est-ce que tu as vu les grosses évolutions que tu as vues ces dernières années dans le rap? Tu en as vu beaucoup? Quel a été pour toi le dernier gros changement dans le milieu?
Alors, le dernier gros, si on doit parler d'un point de vue musical, dans les derniers gros, je dirais PNL. PNL, c'est quand même un truc assez, on va dire, la période avec laquelle PNL grandit et arrive, c'est une période où on est dans une morosité en France. En fait, ce qui est hyper intéressant toujours de regarder, c'est de regarder comment le rap français, ou le rap d'une manière générale, répond à ce qui se passe dans la société. Et au moment où PNL arrive, c'est un moment où il y a une lassitude chez la jeunesse en France, une désillusion par rapport au fait que finalement c'est très dur, le taux de chômage est assez élevé, on a beaucoup de jeunes qui sont dans les rues en train de manifester. Oui. Et donc on a PNL qui arrive avec une musique assez éthérée, qui invite les auditeurs à vraiment être dans cette idée de que la famille, QLF, on est ensemble. Et Peace and Love. Donc c'est vraiment, il va y avoir des mots totems qui vont venir accompagner l'œuvre de PNL, qui finalement vont cristalliser une époque. Et surtout, ça va être un peu comme, tu vois, un espèce de... On revient dans le cocon. Comme si on voulait retourner dans le ventre de sa mère un peu, tu vois, parce qu'on se dit que c'est difficile, etc. Et PNL, au-delà du fait que ça puisse raconter leur quotidien à eux, qui est le quotidien de jeunes venus du 91 en banlieue parisienne, il y a une universalité dans la façon de faire de la musique. Et dans ce ralentissement aussi de la musique, comment ça sonne, qui va faire que les gens vont se retrouver là-dedans. Et ça, ça a été un grand marqueur dans les années, milieu des années 2010.
Okay.
Et par la suite, il y a aussi Joule, qui est là depuis de nombreuses années, qui a aussi été un marqueur assez, assez fort.
Ça manque quand même cruellement de femmes, quoi.
Ça manque malheureusement, ouais, cruellement de femmes. Après, je dirais que ce qui est assez beau à regarder aujourd'hui, c'est qu'on a quand même toute une nouvelle génération de femmes qui s'installent progressivement. C'est vrai qu'elles n'ont pas encore, je dirais que c'est pas que ça manque, mais en fait elles n'ont pas encore atteint le stade des artistes qui font voilà, le top des écoutes sur les plateformes de streaming ou de façon générale même qui passent à la radio ou qui se produisent, mais on a quand même énormément d'artistes qui tourne. Hier soir, il y avait Lala Ace, qui est une rappeuse extrêmement connue, qui faisait son Olympia complet. Meryl, qui fait un Zénith. Donc, on a beaucoup de profils quand même, tu vois, qui font des belles salles, qui ont une audience, qui vendent des disques. C'est quand même super cool.
Parce que sur le marché américain, c'est très, très installé. Mais
Le truc avec le marché américain, en fait, c'est que c'est difficile de faire un vrai parallèle parce que c'est un continent versus nous, la France, un pays. Donc, en gros, il faudrait peut-être regarder la France à l'échelle d'un État aux États-Unis pour peut-être essayer de faire un comparatif qui soit réaliste. Et encore que, je dirais, en plus, la culture n'est pas la même.
Parce que, ouais, mais moi, tu vois, par exemple, j'aurais tendance à classer Nicki Minaj ou Megan Thee Stallion dans les rappeuses.
Oui.
C'est des rappeuses, on est d'accord. Elles font pas, c'est pas de la pop.
Non, bah, elles font les deux maintenant. Enfin, elles sont pop par le fait qu'elles soient devenues populaires. C'est ça le truc assez fabuleux avec la pop. C'est que finalement, c'est un peu un mangeur d'esthétique. Il n'y a pas de genre. Enfin, en tout cas, après, il y a le côté pop qui a été façonné par les Anglais et qui a donné un peu, tu vois, les Ed Sheeran, les Adele. Mais la réalité, c'est que, pareil, la pop, c'est un truc qui est hyper mouvant. Les Beatles ont fait de la pop. Aujourd'hui, la pop, c'est Megan Thee Stallion et c'est Nicki Minaj. Tout ça pour dire que la pop, c'est ce qui marche. Et donc, du coup, de fait, comme ce sont des artistes à succès qui, en plus de ça, à des endroits, il y a des réflexions autour de comment tu fais de la musique quand tu deviens un peu suivi, comment tu grandis et que tu vas aller chercher des audiences nouvelles, c'est par exemple de faire des featurings, comme on dit, des duos. Donc à partir du moment où on va avoir une Cardi B qui fait un duo avec une artiste beaucoup plus pop, forcément ça passe un autre cap.
Un autre cap, ouais. Et du coup, pour toi aujourd'hui, le rap, c'est mainstream ?
Ouais, c'est clairement mainstream. Moi, je pense que c'est mainstream. À partir du moment où ça occupe autant le débat public, qu'on a des artistes qui sont invités dans les émissions de télévision généralistes, qu'on les voit dans les Fashion Week, dans les médias qui font la une des magazines People. Je pense notamment à récemment Damso, avant une Fashion Week, qui rase sa barbe. Et là, c'est genre le fait divers du moment.
Oui, il y a eu beaucoup d'articles dessus.
Tu vois, donc ça traduit en vrai le fait que cette musique-là, elle soit la pop culture d'aujourd'hui.
Mais ne serait-ce que SCH, moi, SCH, à la base, je le connais plus pour son look que pour sa musique, tu vois. Je pense que j'ai jamais écouté un morceau d'SCH. En revanche, je sais que c'est un mec qui est ultra looké.
C'est ça. Mais donc, du coup, ça veut dire que le rap est devenu suffisamment connu et ses artistes aussi, pour qu'on puisse parler d'eux pour autre chose que de leur musique.
Ouais, donc le rap mainstream, mais le rap toujours masculin. Et justement, parce que je me fais une auto-perche.
Toujours.
Je me fais une auto-perche parce que, on s'en doute, le milieu de la musique est masculin, enfin comme plein d'autres milieux.
Bien.
Mais toi, en tant que femme, comment est-ce que tu t'es fait ta petite place, enfin ta grande place aujourd'hui?
Bah, je dirais que je me la suis faite en essayant de trouver toujours des chemins de traverse. En fait, je pense que effectivement c'est un milieu masculin parce qu'il y a ce système de cooptation qui fait que on a tendance à favoriser des personnes qui nous ressemblent. Pour ma part, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours essayé de trouver mes propres solutions, mais j'ai compris assez rapidement que beaucoup de femmes s'illustraient en devenant indépendantes.
Okay.
C'est-à-dire qu'il fallait à des endroits faire ses choses par soi-même, construire ses projets, s'illustrer pour pouvoir revenir par la suite dans des entreprises ou en tout cas se faire une place dans ce milieu-là.
C'est presque prouver qu'on a de la valeur Et pour qu'on nous considère, quoi.
Oui, je pense, à l'image de ce que vous faites avec ce podcast, vous êtes des femmes, vous entreprenez, et ça vous permet en tout cas d'avoir la l'attitude de faire un projet qui est nécessaire et qui va être entendu par des femmes qui vont probablement se dire que c'est possible de le faire.
Ouais.
Donc, je dirais que c'est possible, mais c'est souvent plus long. Et même en étant plus long, in fine, je pense qu'on n'est pas regardé
de la même façon.
Ouais. Et y a vraiment cette idée de si on doit mettre des hommes et des femmes à compétences égales, y aura forcément toujours un écart de perception.
Mais encore plus, tu es maman, tu m'as confessé que tu étais maman d'une petite fille. Et du coup, forcément, ça aussi, ça doit changer le regard qu'on porte sur toi.
Ah oui, bah ça, c'est assez fabuleux, ça, quand on m'a dit « Ah, mais je pensais que tu étais en congé maternité encore. » Bah oui, je suis revenue depuis quand même un an et demi. Hein. Mais bon, les gens, pour eux, dans leur imaginaire, dans leur réflexion, tu as fait un enfant, tu es en pause, en fait.
D'accord.
Et vraiment, moi, j'ai senti, quand je suis revenue de congé maternité, j'ai senti que c'était hyper dur. Parce qu'en fait, je ne suis pas partie longtemps, parce que j'avais peur en fait, de perdre ma place. Mais c'est n'importe quoi. Hein.
Bah oui, mais c'est une crainte que beaucoup de femmes ont aujourd'hui d'être remplacée parce que elle est partie trop longtemps. Quoi.
Mais tu sais, je pensais ne pas l'avoir, moi. Parce que je me disais, bon, avec, on va dire, la carrière que j'ai aujourd'hui, le statut que j'ai, ça va aller. Mais en fait, je suis partie en congé vraiment... à la fin, on va dire, d'un point de vue légal. Donc, j'ai vraiment pris mon congé quand il fallait.
Ouais.
Et au bout de 3 semaines, j'étais toujours en congé, mais j'avais repris le travail.
Ouais.
Parce que je me disais... alors, pas travail par rapport à l'entreprise. J'ai été toujours très réglo. Tu vois, c'est pas l'entreprise qui me demandait de revenir ou quoi que ce soit. Mais c'est plus, on va dire, t'es conditionné par, par le fait de d'être absente et de pouvoir potentiellement perdre la place que tu avais.
Ah non, en fait, ça reste une pression insidieuse, mais une pression qui existe quand
clairement.
Même. Et du coup, aujourd'hui, comment tu t'organises?
Du coup, aujourd'hui, déjà, j'ai la chance d'avoir un mari assez incroyable. Et il faut le dire aussi, parce que même si ça semble logique, y a quand même, souvent beaucoup de couples où il y a un déséquilibre. En tout cas pour ce qui est des couples hétérosexuels, nous c'est pas du tout le cas, ils s'occupent beaucoup de notre fille et donc c'est vrai que d'avoir un partenaire qui est là pour notre fille, moi ça m'a permis de faire énormément de choses.
Ouais. Parce que du coup tu culpabilises peut-être pas d'aller à des listening parties hyper tard, tu as quelqu'un.
Oui, c'est ça, il y a quelqu'un. Et puis, j'ai aussi quelqu'un qui m'encourage à faire d'autres choses parce que moi, j'ai la chance, en fait, de pouvoir travailler aujourd'hui comme responsable éditorial durable chez Deezer, mais de pouvoir faire d'autres projets autour de la musique. Mais c'est vrai que c'est des projets forcément qui vont te prendre du temps sur tes week-ends, sur tes soirées, etc. Et oui, j'ai vraiment quelqu'un qui m'encourage à aller au bout de mes projets, quoi.
Ça, c'est cool.
Ouais, ça, c'est chouette.
C'est bien. Et pour ce qui est parlé de ton travail à proprement parler, ta mission numéro 1 aujourd'hui dans ton travail, qu'est-ce que c'est ?
Ma mission numéro 1 dans mon travail aujourd'hui, c'est de faire de la curation. Je fais des playlists, du coup, ça permet à des artistes d'être entendus par des auditeurs qui nous suivent. Là, j'ai utilisé le mot auditeur parce que c'est vraiment sur le fait d'écouter. Et puis, il y a tout un travail autour de l'accompagnement des artistes. Donc, en gros, nous, on est un peu comme une radio. C'est un peu comme si tu étais sur Skyrock et que tu entendais les titres du moment. Nous, on va faire la même chose par genre dédié. Donc, moi, je m'occupe du rap. Je vais avoir un collègue qui va être plus sur la pop, un autre plus, sur le rock, etc. Et on travaille par esthétique et on accompagne vraiment la vie d'un artiste, de ses tout débuts quand il va devenir possiblement très, très grand.
Très, très grand.
Ouais.
Et du coup, globalement, tous les éditeurs chez Deezer, c'est des gens qui sont passionnés.
Oui.
C'est pas des marketeurs, c'est pas des gens qui font du marketing, quoi.
Non, il y a personne qui fait du marketing. On est vraiment une équipe de gens qui sont bousillés par la musique, avec des profils très différents. Il va y avoir des gens qui viennent plus de l'univers de la radio, donc qui viennent plus de la programmation.
Ok.
Et puis il va y avoir pas mal de journalistes dans notre équipe, donc certains qui évoluaient plus dans l'univers un peu alternatif. tu vois, des médias papier et qui sont du coup dans des genres vachement en lien avec, avec cela, type le rock, l'indie, l'alternatif. Mmh. Et voilà, l'édito pop a plus un profil de radio, parce que okay. souvent la pop c'est un truc assez oui, costaud.
Je pense que là, le rap et la pop se tirent la bourre. En ce qui concerne le genre le plus populaire en France.
C'est ça. Ouais. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que typiquement, en fait, c'est là que c'est intéressant, c'est que la pop, c'est tout ce qui est connu. Mm-hmm. Donc, en gros, avec mon collègue Alex qui s'occupe de la pop, il y a vraiment souvent ces conversations de « bon, tiens, je te le prends, c'est bon, maintenant, il est assez entendu, il est hyper suivi, je vois que c'est très, très fort sur TikTok, Shazam, etc. » Parce qu'on regarde aussi beaucoup les datas.
C'est vrai que TikTok, ça a dû changer énormément de choses dans votre métier.
Ouais, carrément. TikTok, ça a été un... Bah oui, j'en ai pas parlé parce qu'on parlait des groupes, mais je dirais que la dernière grande...
Révolution.
Ouais, c'est TikTok. TikTok, ça a complètement refaçonné la façon de regarder les titres, les carrières des artistes. Et ça donne beaucoup de trends, comme on dit, donc de tendances. Et ça peut paraître assez étrange de l'extérieur pour les gens qui n'ont pas l'habitude, parce qu'ils disent, mais c'est bizarre, des mecs ou des meufs qui dansent sur des... qui font des chorégraphies, je ne comprends pas. Mais
bon, un million de vues, 2 millions de vues, 10 millions de vues, quoi.
Donc, et puis, voilà. Mais après, je pense que ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'une trend, elle est lancée sur des titres, OK. Mais si tu vois qu'il y a, en termes de création de vidéos, de plus en plus de créations, que le titre continue de monter, qu'il reste assez haut et qu'il a une durée de vie qui est supérieure à 6 mois, c'est que c'est un tube. Donc le truc, c'est qu'un tube, ça reste un tube. Qu'il soit révélé par TikTok ou par la radio. Ou,
par tu Internet. Vois,
voilà, un tube est un tube, je pense. Mm. Mais c'est vrai que TikTok a favorisé, je dirais, l'émergence probablement d'esthétiques très différentes. Comme les plateformes de streaming, en vrai.
Oui ouais. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de se balader avec un baladeur.
C'est ça.
Moi, je vais dire un baladeur CD. Parce que j'ai pas connu le baladeur cassette. Ou alors si, mais j'étais vraiment toute petite. Mais ne serait-ce que déjà un MP3, ça a été une petite révolution. Mais là, aujourd'hui, que tu as accès à n'importe quelle musique, à n'importe quel moment de la journée, quand tu veux, ça a dû changer énormément sur le marché de la musique.
Oui, c'est fantastique. Et puis, on a vraiment vu aussi que ça permettait à des scènes qu'on n'avait jamais regardées d'émerger. Je pense notamment à la K-pop. Ouais, c'est clairement un triomphe en streaming et c'est ce qui fait que finalement, après, tout le monde s'y intéresse. Mmh. Parce qu'à partir du moment où on se rend compte qu'il y a une demande de la part des utilisateurs ou du moins que certains titres ressortent dans les tops en France, on se pose la question de savoir s'il faut... regarder de ce côté-là. Récemment, un petit peu plus, on a aussi tout ce qui concerne l'afrobeat, les gros tubes qui viennent du Nigeria. Pareil, en fait, c'est vraiment avec les plateformes de streaming, YouTube, TikTok, qu'on voit ces titres émerger.
Et finalement, heureusement qu'il y a des éditeurs derrière, parce que sinon, on n'écouterait que les musiques qu'on connaît. C'est le moyen, en fait, de découvrir plein de nouvelles choses.
Oui, c'est ça. C'est le moyen de découvrir plein de nouvelles choses. Et puis, c'est vrai que nous, on est au-delà du fait de faire des playlists. Tu vois, mon travail aussi, c'est d'être hyper en lien avec toute l'industrie.
Oui.
C'est-à-dire que je parle beaucoup avec les producteurs, les managers, les manageuses, avec les artistes eux-mêmes. J'ai une place où je dois savoir tout ce qui va arriver, tout ce qui se passe sur l'esthétique que je travaille.
Oui, donc en fait, toi, tu sais qui sont les prochains artistes qui vont exploser dans les 6 prochains mois, quoi.
C'est l'idée. Voilà. Ça fait partie de mon travail, oui.
C'est assez dingue. On va arriver doucement vers la fin du podcast. Je vais te demander quelques petits tips.
D'accord.
L'idée, c'est que je te pose des questions et tu dois me répondre le plus sharp possible.
Ok.
C'est du tac au tac, mais je me laisse le droit de creuser si jamais il y a un truc qui m'intrigue.
Ça marche.
Quelles sont les 3 qualités essentielles d'un éditeur ou d'une éditrice dans la musique ?
Curiosité, résilience et je dirais organisation.
Ok, très clair. La dernière trouvaille que tu as faite en matière de musique ?
Je dirais TH, c'est un rappeur du 93, l'OVNI, voilà, c'est un mec assez... fabuleux. Enfin, après, c'est un rap qui peut être incompris par le grand public pour le moment. Mais il y a quelque chose d'assez fascinant dans son storytelling autour de l'espace, les fusées. Je vois en lui
quand tu dis ovni, ouais, c'est légitime. Quoi.
C'est ça, mais je vois en lui un jeune enfant qui a dû beaucoup aimer regarder des lancements de fusées ou des ou des trucs autour de l'espace, quoi. Et j'aime bien.
Ok, on ira écouter ça du coup.
Ça marche.
Une femme qui t'inspire.
Une femme qui m'inspire, je dirais ma tata. Nadège Tubiana, qui est la directrice générale de Trace en Afrique de l'Ouest.
Okay.
Et elle m'inspire énormément parce que c'est une personne qui est partie de Paris pour aller lancer une radio du groupe Trace au préalable au Cameroun. Ça n'a pas fonctionné, donc elle a été draftée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et là-bas, elle a monté une radio. Donc sans avoir la connaissance qu'il fallait, qui est l'une des radios numéro 1 du pays, donc de Abidjan. Et elle a aussi monté une chaîne de télévision et elle travaille énormément sur la région ouest-africaine. Et je trouve que de par tout ce qu'elle a fait, c'est assez incroyable.
Est-ce que tu peux juste expliquer ce qu'est Trace ?
Trace, oui, pardon. Ouais. Trace, c'est une chaîne de musique, enfin, c'est un groupe de chaînes de musique spécialisé dans les musiques afro-caribéennes. En France, c'est plutôt hip-hop, R&B, mais c'est extrêmement bien implanté en Afrique. Et on a notamment Trace en Afrique du Sud, qui est la chaîne numéro 1 chez les jeunes. On a Trace en Côte d'Ivoire, qui est extrêmement populaire. Pareil pour ce qui est du Sénégal ou du Congo. Donc, ils ont vraiment lancé des antennes et des radios pour des zones spécifiques du continent africain.
Ok, très clair. Tu fais quoi quand tu en manques d'inspiration ? Tu peux ne rien faire, hein, aussi, c'est pas grave.
En fait, souvent, je pense que quand je suis en panne, j'écoute pas de musique.
Ok.
Ouais.
Tu laisses ton cerveau reposer.
Oui.
Ok. Tu dirais quoi à ton moi plus jeune ? Tu lui ferais un check, un câlin ? Est-ce qu'elle serait fière de toi ?
Ouais, je lui ferais un câlin.
Ouais.
Ouais.
Un gros câlin.
Ouais, grave.
Et tu dirais quoi ?
Je dirais, je suis contente, fière de toi.
Ouais. Mignon. La question que t'en as marre qu'on te pose.
Alors, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le rap. Mais c'est normal, hein. Après, c'est toujours c'est les questions premières qu'on pose.
Mais généralement, cette question-là, je sais que je l'ai forcée. Enfin, quand je la pose, je sais que je vais me prendre un taquet.
Oui, mais après, il est utile de la poser. Mm-hmm. Et en fait, il faut la poser. Elle est nécessaire.
Mm-hmm.
Parce que les gens qui vont écouter ce podcast, par exemple, c'est peut-être pas ceux qui vont écouter une autre émission, etc. Enfin, même en dehors de ça, c'est le premier constat. Après, on gratte toujours un peu et on regarde un peu les histoires des unes et des autres pour comprendre le pourquoi du comment. Mais c'est sûr que c'est à la fois un sujet, moi, qui me porte et dont je parle beaucoup. Et même sur les réseaux sociaux, j'ai toujours envie de dire quelque chose par rapport à ça parce que ça m'énerve. Et en même temps, ça m'énerve aussi qu'on me pose cette question.
Ouais, ouais, c'est le serpent qui se mord la queue.
C'est ça.
Quelque chose qui n'est pas sur ton CV mais qui a marqué ta carrière. Elle est dure celle-là.
Bah, jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'aurais dit le coaching parce que je le racontais pas nécessairement.
Tu fais du coaching pour des artistes.
Oui, c'est ça. Je travaille avec beaucoup d'artistes, dont Aya Nakamura, Ronisia, Yamé. Enfin, je fais beaucoup de très gros profils. Et pendant longtemps, je ne l'ai pas raconté parce que je me disais que ce n'était pas utile à ce que je faisais.
Mmh.
Et en vrai, aujourd'hui, je me dis que c'est bien d'en parler parce qu'on est dans une époque où c'est très difficile pour les artistes de s'exprimer dans les médias. Ils ont souvent peur de comment ça va être entendu, des questions qu'on va leur poser, etc.
On les rate pas, quoi.
C'est ça.
Je veux pas parler d'Aya Nakamura parce que c'est peut-être hors de ton scope, mais typiquement, Aya Nakamura, dans le genre, s'il y en avait une qui se fait tailler régulièrement par les médias, c'est bien elle.
Oui, après, c'est, on va dire, le revers de la médaille. Mmh. Le fait qu'elle soit aussi populaire fait que forcément, elle est encore plus observée, regardée. Et puis, il y a autre chose, mais là, c'est pas très nouveau. C'est qu'il y a beaucoup de racisme aussi qui se joue autour de ce que représente Aya Nakamura.
Oui, donc oui, forcément, c'est un sujet un peu compliqué. Pour c'est certains, il y a certains qui ne veulent pas l'admettre, quoi,
voilà,
qu'elle est populaire.
C'est ça.
On va finir sur trois rappeuses féminines à suivre de près.
Trois rappeuses, oh là là, c'est dur, hein. tu m'aides pas.
Ouais, je crois que je me doute que tu pourrais me faire une liste, pendant 25 minutes, mais là, il m'en faut trois.
Ok, et ben, je dirais Kay de Prodigy, qui est une toute jeune rappeuse que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a beaucoup de talent. Je dirais le Juice, qui est une artiste qu'on a eue dans la relève, qui est un Originals, programme original chez Deezer, où on pousse des jeunes talents. Et on les présente comme le futur du rap. Et je dirais la dernière, Shy, parce que c'est notre reine mère du rap aujourd'hui.
Et dernière question, est-ce que tu as un mantra qui te donne envie de te lever le matin?
Ah, c'est une très belle question. Je pense que le fait de dire merci, toujours.
Ok.
Ouais. Le soir, quand je couche ma fille, je lui dis merci.
Donc c'est peut-être le meilleur conseil, voilà. C'est dire merci. Être dire reconnaissant. Merci.
Ouais, c'est bien. Je trouve que c'est important.
Ok, bah, je crois qu'on est bon.
Merci.
On a fait un gros tour. Bah, merci à toi, Largesse. J'étais ravie de t'avoir sur le podcast. Pareil, C'est qui la bosse. J'aime beaucoup le fait qu'on ait exploré ce sujet ensemble. Et j'espère que voilà, c'est que le début de plein d'autres explorations sur le podcast. Merci beaucoup. À bientôt.